Il est midi sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et pour vous ouvrir l'appétit, pour ouvrir cette émission, je vous propose de faire un tour du côté de Lomé au Togo en suivant notre chroniqueur Aristide qui va tout nous dire des Sakomi.
Je suis Aristide Oniglo, web journaliste, blogueur. J'aime beaucoup les sons, toutes sortes de sonorités. Je suis à Lomé au Togo. Ce sont les sons ou les réclames des revendeuses de baguettes de pain dans les rues de la ville de Lomé. La baguette ici est appelée Sakomi du nom d'une ancienne société commerciale qui en fabriquait dans les années 1970. C'est cette société donc créée par un commerçant d'origine guinéenne, la Société africaine pour le commerce et l'industrie, en acronyme Sakomi, qui a tout simplement donné son nom à la baguette de pain togolaise. Il faut dire que n'importe quel habitant de la ville de Lomé a déjà entendu ce cri des revendeuses de baguettes de pain parce qu'il est quotidien dans presque tous les quartiers de la ville. Mais à l'origine, ce cri m'attirait beaucoup et je voulais étudier la fréquence des voix des revendeuses. Mais à la fin, j'ai fini par avoir de l'admiration pour cette sonorité et naturellement ces dames qui portent de petites bassines sur leur tête et qui très tôt le matin, déjà vers 5h ou 6h, commencent à faire du porte-à-porte pour écouler leur lot de baguettes. Beaucoup d'entre elles font le pied de grue devant les boulangeries depuis minuit la veille ou vers 3h ou 4h du matin. Et dès que le pain est cuit, elles prennent un lot de 100 à 150 pains et font le tour des maisons jusque vers midi pour revenir faire les comptes à la boulangerie ou retourner à la maison. Il faut dire que c'est un travail difficile sous le soleil, la pluie ou carrément dans le froid, mais ce sont des dames dignes et fières. Et certaines d'entre elles qui font cela depuis des années ont construit leur propre maison. Donc c'est tout ça qui m'a attiré chez ces revendeuses de baguettes de pain de la ville de Lomé. Lorsque je croise au coin de la rue où j'entends le fameux cri « Sakomi », j'essaie de me rapprocher de la revendeuse. Puis je sors mon téléphone pour la prise de son. J'aurais pu inviter l'une de ces revendeuses pour l'enregistrer, mais j'ai voulu que son reste comme tel sans trahir le naturel de l'émotion. J'ai pris ces sons pour la plupart dans des quartiers de la banlieue nord de Lomé, où se trouvent certaines boulangeries qui fabriquent des baguettes de pain. J'ai capturé le premier son en décembre 2016 et le dernier il y a une semaine.
Thank you.
Merci à Aristide qui, depuis Lomé au Togo, nous apprenait ce qu'est une sakomi, la baguette de pain togolaise. Nous retrouvons maintenant nos médiathécaires préférés, la bibliothèque municipale de Tours sur les ondes de Radio Campus Tours.
Oui, bonjour, alors c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours et moi mon truc c'est la BD, donc tout à l'heure je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Non, mais bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours.
.com.
.com.
Je voudrais parler de Popeye.
Donc, Pile à lire, c'est un nouveau rendez-vous mensuel qui s'adresse aux 15-20 ans. Donc ce sera une fois par mois à la bibliothèque, le samedi, à 14h30. Et notre premier rendez-vous, c'est le 19 octobre. Et ça se passera à la bibliothèque centrale, à l'espace Escale. Et je vais laisser Sarah présenter un peu, nous parler plus précisément de ce que c'est que Pile à lire.
Alors, pendant une heure, on va échanger autour de nos coups de cœur, que ce soit roman, BD, musique, série, film. Vous pouvez parler podcast, on pourra présenter nos coups de cœur. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que les lecteurs parlent eux-mêmes de leurs coups de cœur pour les faire découvrir au plus grand nombre. Et ils sont pas obligés de parler que de coups de cœur. S'ils n'ont pas aimé quelque chose, ils peuvent le dire et il n'y aura pas de gêne, il n'y aura pas de jugement. Voilà.
C'est vraiment un moment pour échanger et parler de ce qui nous fait plaisir. Et puis, on voulait aussi en profiter pour vous dire que vous pouvez aussi nous retrouver sur la newsletter qui est aussi adressée aux 15-25 ans, qu'on publie tous les 3 mois. Et même chose, hein, on y parle de nos découvertes, de nos coups de cœur. Et donc, on peut s'inscrire sur le site de la bibliothèque de Tours, qui est bm-tours.fr.
Alors, cet atelier, enfin cette pile à lire, c'est ouvert à tous les jeunes, résidents à Tours ou non ? Ou est-ce qu'il y a des restrictions particulières où on peut venir comme on veut ?
Il n'y a aucune restriction. Tout le monde sera bien accueilli, qu'on soit à Tourangeau, Corpo Pétrussien, de la Ville aux Dames, je ne sais pas. on peut venir de partout.
Et alors, ce rendez-vous, il existe depuis quand ?
Eh ben, c'est tout nouveau. Donc, comme je disais, le lancement, ce sera le 19 octobre. Donc, il faut venir très nombreux. Toute participation sera la bienvenue.
Est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi vous avez eu envie de créer ce rendez-vous pour les 15-20 ans ?
Parce qu'on a envie d'échanger avec notre public, entre guillemets, que avec Morgane, on s'occupe du fonds Escale. Le fonds Escale, c'est spécial jeune adulte. On essaye que tout le monde se retrouve dans ce fonds-là. Mais c'est un fonds pour les 15-35, ce qu'on aime dire. Mais tout le monde vient, alors c'est vraiment... Voilà, il n'y a pas vraiment d'âge. Et là, c'est vraiment pour faire un rendez-vous mensuel où les gens peuvent se retrouver, échanger et partager... ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Enfin, c'est vraiment un moment de partage pendant une heure et un échange avec nous aussi, parce que quand on est au retour, des fois, on n'a pas ce temps de dialoguer avec les gens, d'avoir leur retour, de s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé. Et donc là, ce sera vraiment l'occasion pour...
Oui, comme disait Sarah, c'est vrai que c'est important aussi, on achète des livres pas que pour nous faire plaisir et aussi pour faire plaisir à un public et voir si on touche notre cible, si les gens ont fait des découvertes, si ça leur a plu, si ça les a étonnés, si ça justement ça leur a vraiment déplu. Et justement, ces temps-là de partage, ça permet aussi de montrer peut-être les bibliothécaires sur un autre jour, et puis partager les goûts, se rendre compte que certains lecteurs ont les mêmes goûts. Et voilà, c'est un moment de discussion et qui souvent dépasse largement le cadre des livres, parce que les livres, ça parle par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, des expériences, des souvenirs. Et souvent, les gens, c'est l'occasion aussi de discuter, d'avoir vraiment un échange entre personnes. Et ça, c'est intéressant aussi.
Est-ce que c'est un public qui est plus difficile à capter que les autres, ce public-là ?
Alors, clairement, oui. parce que c'est tout simplement, c'est une tranche d'âge où il y a plein de nouvelles expériences à faire. Donc il y a beaucoup, déjà les études prennent plus de temps au lycée, il y a tous les examens, le bac, et puis c'est l'âge aussi où on est plus autonome, on est plus indépendant, donc on a plein de nouvelles expériences à faire. Et donc les adolescents viennent moins à la bibliothèque. Après, est-ce qu'ils lisent moins ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils viennent moins à la bibliothèque. Donc, on essaye de retrouver un peu ce public-là. On essaye de les rencontrer, de revenir à leur rencontre.
Alors, en plus de partager des choses qui nous ont plu ou déplu, c'est aussi un espace où on apprend à développer son esprit critique, puisqu'on se confronte aussi au point de vue des autres. Si on a aimé quelque chose, faut expliquer pourquoi. Et peut-être que même si les jeunes gens lisent toujours autant, peut-être d'une façon différente, peut-être qu'ils n'ont pas d'espace pour confronter leur point de vue en vivant, disons.
C'est intéressant comme point de vue, parce que en même temps, ils échangent beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a cette nouvelle pratique-là aussi. Alors, les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que se confronter physiquement, oui, en effet, ils ne doivent pas avoir beaucoup d'espace, à part en classe peut-être, mais ça doit s'arrêter là.
Je voulais juste avoir une confirmation du créneau d'âge, entre guillemets, de cette rencontre pile à lire, puisque l'escale donc, qui contient, je ne sais pas comment on peut dire, les livres en question, s'adresse aussi effectivement à une génération autre, puisqu'on a beaucoup d'adultes, on va dire même des gens, une cinquantaine, soixantaine d'années, qui empruntent des livres dans ce secteur, peut-être même plus que les jeunes. C'est possible, je ne sais pas.
C'est possible.
Et donc, est-ce que ces personnes-là peuvent être conviées à cette pile à lire ou pas ?
Non,
c'est
là,
pas le but.
Non, on a vraiment ciblé sur les 15-20 ans. Vraiment, c'est un moment pour eux. Ça fait un peu exclusif, mais.
Ils sortent, quoi. Ils viennent vous voir.
Oui, là, on va commencer tout doucement, comme ça.
Non, puis je pense que sur le réseau, il y a d'autres rendez-vous qui permettent, aussi bien pour la bande dessinée que pour les romans ou même les documentaires. Sur le réseau, il y a quand même pas mal d'occasions. Donc sur toutes les bibliothèques, il y a des moments comme ça de rencontres assez réguliers. Donc je pense qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts et pour tous les âges.
Ça se passera ici à la bibliothèque, à l'Escale,
d'accord.
À l'espace Escale. Mais on n'a pas mis de jauge maximale. C'est un samedi, on vous invite
rendez-vous mensuel.
À aller voir sur le site de la bibliothèque. On le met régulièrement à jour à la bibliothèque. Il y aura les informations nécessaires pour retrouver toutes les dates de ce rendez-vous mensuel.
Pile à lire, nouveau rendez-vous à la bibliothèque municipale de Tours, présenté par nos médiathécaires. Vous écoutez toujours La Méridienne et nous retrouvons à présent notre invitée, Emmanuelle Pavillon, directrice départementale de la Nouvelle République. Bonjour Emmanuelle Pavillon.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier, votre travail ?
Je suis responsable de l'équipe de journalistes qui travaille sur l'Indre-et-Loire et qui produit des contenus, que ce soit sur le papier ou que ce soit sur le web, pour la Nouvelle République d'Indre-et-Loire.
Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes chef d'une équipe de journalistes? Est-ce qu'on peut résumer comme ça?
Oui, vous pouvez mettre plein de mots. Je suis leur directrice, je suis leur responsable. En gros, s'il y a des ennuis, c'est moi qui prends.
Voilà. Alors, est-ce que vous avez, c'est vous qui suggérez des sujets d'articles ou comment ça marche en fait?
En règle générale, c'est pas tellement nous qui suggérons les sujets, c'est plutôt le territoire. En fait, ça procède de deux choses, un agenda de local, de rédaction locale, comme pour les rédactions nationales d'ailleurs. À la fois, il y a les événements qui viennent vers nous presque tout seuls, les gens qui font des choses et qui ont envie que ça se sache, ou qui ont envie d'en parler, ou qui ont besoin d'en parler, qui viennent nous voir en nous disant, voilà, on fait ci, on fait ça, est-ce que vous avez envie d'en parler? Et puis petit à petit, on se dit pourquoi pas, on fait un sujet là-dessus parce que ça peut en intéresser d'autres, et dans le cadre de ce sujet, on rencontre d'autres gens, et au final, chaque journaliste se crée des contacts, récupère des informations, propose des sujets. Ça vient également, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, du territoire qui nous sollicite, enfin, et demandeur. Et pour le coup, on essaie de faire une juste mesure entre tout ça, de manière à avoir un contenu qui tienne la route. Des contenus qu'on essaie d'avoir. Ce qui est compliqué dans mon job, c'est que finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'infos qui arrivent toutes seules. Et il faut parfois être capable d'en laisser une partie de côté. Ça peut supposer que des fois on va laisser de côté des choses un petit peu évidentes qui sont peut-être plus institutionnelles, qui sont peut-être plus ordinaires, plus... Et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est vu du lecteur. Et le problème que ça pose, c'est que mes Radio Campus doivent vivre ça aussi, quand on est un média de territoire, à la fois on écrit pour les lecteurs, on écrit pour les gens, mais on est très en contact avec les acteurs, ceux qui font. Et les gens qui font, et ben ils font ça avec beaucoup de moelle, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de conviction. Et quoi que soit, quelle que soit leur action, que ce soit de l'économie, de la politique, du culturel, il faudrait qu'on parle d'eux, parce que ils estiment, et à juste titre souvent, ce qu'ils font, c'est vachement bien. Sauf qu'en face, le lecteur ou l'auditeur, c'est pas toujours ce dont il a envie d'entendre parler. Donc là, il y a une espèce de difficulté à ne pas désappointer les uns sans donner aux autres ce qu'ils n'ont pas ni envie de lire ni envie d'entendre.
Alors comment ça se passe une conférence de rédaction au sein de l'ANR? Est-ce que tout le monde arrive avec des sujets? Comment on hiérarchise qui parle de quoi? Comment ça se passe?
Alors tout le monde arrive avec des sujets. On a une conférence de rédaction le lundi, une conférence hebdomadaire. Tout le monde arrive avec des sujets. On commence par ça. Justement parce qu'on ne veut pas être bloqué par un agenda trop figé, trop institutionnel. Donc on commence par ça, on commence par donner la parole aux gens et chacun lâche ce qu'il a envie de faire. Globalement, il n'y a pas de priorité, c'est pas un tel avant un tel, c'est en fonction de comment les gens se trouvent ce jour-là assis autour de la table. On commence par un bout et puis ça tourne. Et comme les gens sont pas systématiquement aussi au même endroit, c'est pas forcément les mêmes qui commencent. Donc il y a pas de priorité donnée aux uns ou aux autres. Par contre, il va y avoir des priorités données à des sujets à des moments donnés. Évidemment que quand on va approcher dans 6 mois des élections municipales, enfin même dans 5 mois maintenant, et que ça va devenir le sujet qui intéresse tout le monde, les personnes qui s'occupent de politique, elles auront peut-être un petit peu plus de temps de parole, ou plus exactement un petit peu plus de temps d'échange avec les autres dans le cadre de ces réunions que les autres à ce moment-là, quand on se trouve dans des périodes de crise. Je sais pas, aujourd'hui vous avez dans la rue plein de gens, vous avez des lycéens pour le climat, vous avez les services de la ville de Tours qui sont en colère à l'heure actuelle, là tout de suite, je ne sais pas exactement pourquoi, mais on le saura dès qu'on aura lu l'ANR tout à l'heure sur Internet, enfin bref, qui sont en grève, des agents de l'organisation de, des événements dans la ville qui sont en grève. Enfin voilà, là, à l'heure où on est en train de se parler, ça doit être un joyeux bazar en centre-ville de Tours. Forcément qu'hier, c'était un petit peu plus de données aux gens qui allaient traiter ces sujets-là. Parce que je vous ai parlé d'une conférence hebdomadaire, mais on recommence à se parler un petit peu tous les jours, évidemment. Puis on se parle plusieurs fois par jour aussi, parce que globalement, l'idée, c'est pas de figer le journal en début de semaine. C'est plutôt de le faire vivre et revivre.
Il y a combien de journalistes
En Indre-et-Loire, il y a une trentaine de journalistes. Ils sont essentiellement à Tours. Il y en a deux à Amboise, deux à Loches et deux à Chinon. Donc en fait, ça se répartit comme ça. Il y a des journalistes qu'on appelle localiers, des gens qui sont des écrivains ou qui écrivent sur l'actualité locale. On a des journalistes écrivains aussi sportifs. On a des journalistes photographes. On en a deux en Indre-et-Loire. Et puis on a des journalistes secrétaires de rédaction. C'est des journalistes qui font la mise en scène, en clair, qui font le puzzle et dans le journal, et qui font que c'est à peu près écrit correctement et de manière à peu près intelligente et hiérarchisée.
Et alors cette équipe de journalistes, ils ont à quel âge à peu près? Est-ce qu'ils viennent de Tours? Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes, puisque c'est très à la mode cette...
Alors, moi j'ai commencé dans ce métier en règle générale, ça fait quelques années maintenant, j'étais la seule femme et j'étais soit CDD. Enfin, il y avait des femmes soit CDD, soit secrétaire de rédaction dans la PQR telle que je l'ai connue. J'ai travaillé dans plusieurs journaux, pas seulement à la Nouvelle République. Voilà. Maintenant, c'est quand même, ça a beaucoup évolué. Chez moi, il y a à peu près moitié-moitié d'hommes et de femmes. Il y a des gens jeunes et des gens plus vieux. On va de 23 ans à 65. On a des gens qui font un petit peu de rab là, qui aiment ça. Donc voilà, les pyramides des âges sont à peu près équilibrées aussi. Il y a des rédactions de la Nouvelle République où c'est un petit peu plus équilibré que chez moi. Là, je suis en train de militer pour récupérer quelques profils qu'on n'a pas forcément en ce moment, parce que c'est pas du tout qu'on veut équilibrer ou c'est pas du tout qu'on veut tel ou tel profil. Ça part juste de l'idée qu'une équipe efficace dans nos jobs, c'est une équipe la plus diverse possible. Plus les gens sont différents, plus ils ont de centres d'intérêt différents, plus ils ont de vies différentes. Dans l'idéal, il faudrait des jeunes, des vieux, avec enfants, sans enfants, qui vivent en ville, qui vivent à la campagne, qui s'intéressent à la culture ou qui détestent la culture, plus les gens seront différents, plus on aura de chance de faire un journal proche de nos territoires.
Alors c'est quoi les profils qui manqueraient peut-être un peu en ce moment?
En ce moment là, j'aurais besoin que soient embauchées quelques personnes que j'ai et qui sont un peu jeunes, qui ont une vraie vingtaine d'années. J'arrive du Loir et je suis pas depuis très longtemps à Tours, et j'étais dans le Loir-et-Cher avant. Et on avait des gens qui avaient vraiment le profil 22 ans, tout juste sorti des études. Et c'est ça que j'aimerais bien avoir aussi à Tours.
Parce que ça a une influence directe sur votre lectorat, en fait, c'est peut-être, non ?
C'est plutôt que ça... C'est pas tellement sur le lectorat que ça a une influence, parce que le lectorat, finalement, je pense que c'est... à un moment donné, un média qui rencontre un public, et puis ça se travaille sur un très long terme et pas forcément dans l'immédiateté possibilité d'une embauche, d'un profil, voilà. On les trouve autrement, hein, ces profils-là, c'est-à-dire qu'on a d'autres gens qui collaborent avec nous, des correspondants, des pigistes, etc. Donc, on arrive à refaire le puzzle. C'est plutôt parce que ça permet de varier les sujets, ouais. Ça permet de varier les sujets. Après, ça veut pas dire... là, c'est un hasard si en ce moment, c'est ce profil-là dont j'ai besoin. Il y a des périodes où on a plutôt manqué de jeunes parents, par exemple, ou de parents d'ados. Ou, voilà, c'est... c'est pas juste avec une grille de profil et voilà qu'on fait une audience, quoi. C'est pas comme ça que ça se calcule. C'est je vous raconte ça, mais au final c'est un plus, mais c'est un plus qui peut presque être considéré comme anecdotique par rapport à l'ensemble des préoccupations et des soucis qu'on peut avoir face à nos audiences.
Et donc ces jeunes journalistes qui sortent d'études là, dont vous auriez besoin, vous les orienteriez plutôt sur quel sujet ?
Bah, l'idée, c'est justement qu'ils ne soient pas forcément orientés. C'est-à-dire que eux, mais c'est vrai pour n'importe qui, à n'importe quel moment, un journaliste amène des sujets et les fait, c'est un plus. Parce que, en fonction de sa personnalité, de son bagage, de son histoire, de ce qu'il est, de ce que, il va traiter des sujets différents et du coup la variété fera la richesse. Mais les profils différents, ça permet aussi de traiter les sujets les plus ordinaires de différentes façons. C'est-à-dire que, je sais pas. Comment se passe la rentrée universitaire? Je vais prendre n'importe quoi comme exemple, mais malgré tout, je suis sur un campus, alors voilà. Ou comment, selon la personne qui vient, on va pas avoir exactement le même angle. L'angle de traitement va pouvoir être lié à plein de choses, c'est-à-dire que ça peut être lié à l'actualité aussi. Si vous arrivez sur un campus à une période où il y a des grèves partout, vous n'allez pas traiter votre entrée au campus de la même manière que si vous arrivez sur un campus où, je ne sais pas, l'actualité, l'une des actualités de cette année était le passage à 30 000 de l'université de Tours. Bon, c'en était une parmi d'autres, hein. Il y a eu aussi des problèmes, mais ce n'est pas juste la personnalité des gens qui crée l'angle, heureusement, c'est l'actu qui crée l'angle. Mais il y aura des petites subtilités de traitement différentes si les gens sont un petit peu différents. Donc l'intérêt d'une équipe variée, c'est qu'on traite peut-être 10 fois le même sujet, mais on va le traiter de 10 manières différentes et que ça va enrichir nos contenus.
D'ailleurs, c'est une préoccupation qu'on retrouve évidemment, je pense, à l'École publique de journalisme de Tours, puisque nous avons eu le plaisir de recevoir, il y a quelques temps maintenant, Laurent Bigot et Nicolas Souris, qui sont venus nous présenter le remaniement, disons, interne, et puis leur nouveau master. Et ils disaient qu'ils avaient aussi ce souci, vraiment, d'avoir des gens qui viennent de plein d'horizons différents, de formations différentes, parce que, comme vous le dites, ça donne un cadre culturel, un cadre de référence qui est différent, et qui, évidemment, une lecture différente d'une réalité.
Voilà. Le but du jeu, c'est d'essayer de proposer des choses variées et le plus riche possible. Donc forcément, la richesse des gens et la variété des gens y participent.
Et alors, vous nous parliez aussi des correspondants tout à l'heure. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Il y en a combien? Qui
sont-ils? Alors, les correspondants, il y en a un petit peu moins d'une centaine en Indre-et-Loire, tout confondu, hein, le sport compris. En fait, ce sont des gens qui ne sont pas journalistes et qui sont en quelque sorte les yeux et les oreilles du journal, ou en tout cas qu'on essaie de vivre comme ça, les yeux et les oreilles du journal sur le territoire. Il y a soit des gens spécialisés géographiquement, c'est-à-dire qui vont s'occuper plus particulièrement d'une commune ou d'un quartier, si on est dans une grande ville, enfin dans une ville un peu conséquente. Ou alors, ils vont être organisés par thématique. On va avoir des correspondants, culturels, des correspondants qui s'occupent plus d'un domaine ou de l'autre. Et c'est donc des gens qui produisent une copie, on va dire... alors nous, on appelle ça une copie, mais qui rendent compte d'une information, qui font du factuel pour nous. Là où nous, on n'a pas forcément, on ne peut pas être partout. Les gens ont besoin d'infos avec enquête, décryptage, etc. Mais ils ont aussi besoin de savoir ce qui se passe à côté de chez eux de manière très très simple et factuelle. Et en fait, c'est le travail que l'on demande à nos correspondants. En fait, on leur achète, on achète ce travail-là à des gens dont ce n'est pas forcément le métier, et c'est un peu remis en scène par les secrétaires de rédaction, les journalistes dont je parlais tout à l'heure.
Voilà, donc c'est des gens qui sont peut-être étudiants en journalisme, qui se destinent à ces choses-là.
Potentiellement.
Mais aussi des personnes qui sont à la retraite.
Voilà, ça peut arriver. On a des enseignants retraités, on a des gens qui ont une passion, ou une autre. De la même manière que Radio Campus, si j'ai bien compris, a des collaborateurs qui sont des gens qui viennent exprimer leur passion sur un sujet ou sur un autre. Nous, nos correspondants locaux, c'est souvent des gens qui sont vraiment en osmose avec leur territoire, c'est-à-dire qui, quand ils disent qu'ils habitent un endroit, vraiment ils l'habitent, quoi. Ils ont envie de savoir ce qui se passe autour, ils participent à ce qui se passe autour, ils s'en imprègnent, et du coup ils sont en capacité de quelque part d'en faire une espèce de compte-rendu à nos lecteurs.
Là, c'est aussi des gens dont certains ont un vrai bien de plume, c'est-à-dire qu'ils ont une ils ont un goût de l'écrit.
Oui. Il y a des vrais talents, des vraies richesses, des vrais, voilà. C'est juste des gens qui ont un autre métier à côté, ou alors qui sont en train de faire des études, ou alors qui ont plus de métier parce qu'ils sont à la retraite. Enfin, voilà. C'est juste pas des journalistes, mais ça empêche pas le talent ni la collaboration.
Est-ce que ça vous semble juste, Emmanuel Pavillon, de dire que un journal peut se retrouver dans une idée de plaire et instruire? Est-ce que ça vous semble vrai?
Plaire et instruire. Je pense que c'est presque un résumé des rapports humains, ça, non? C'est à partir du moment où on échange, c'est où on échange et où on reste dans l'échange, à condition que ça soit pas pour se taper dessus les uns les autres. Et ça arrive aussi, hélas. C'est que on a envie de se plaire un peu dans ce temps-là et que on tire une information de la personne en face. C'est de l'échange humain, c'est du rapport humain. Forcément, un journal est... alors moi, j'ai pas envie forcément de dire là pour instruire. Je pense qu'on a un rôle pédagogique à un moment donné, qu'on peut avoir un rôle pédagogique à un moment donné, mais malgré tout, on n'est pas là pour instruire, on est là pour informer. Et c'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire que on n'a pas de leçons à donner, on n'a pas de c'est pas du tout péjoratif pour les enseignants, ça c'est leur boulot, c'est chacun son job, mais nous on est là pour donner une information. Et moi, quand je fais des interventions auprès des gens qui me demandent c'est quoi mon métier, je dis moi je donne une info, je donne ce que je suis capable d'en donner de cette info là après à vous de la prendre, à vous de la recevoir, et puis d'en faire ce que vous voulez, de la prendre comme telle, de la confronter, et c'est plutôt pas mal, hein, de la confronter, de s'ouvrir un peu plus largement qu'une seule info, et puis d'en retenir ce que vous avez envie. Donc instruire, non. On a parfois pas aussi brutalement que ça, on peut avoir parfois un rôle pédagogique à la marge, c'est-à-dire qu'on fait plein de choses dans le journal qui sont pas vraiment lues et qu'on fait avec un petit peu un bâton de pèlerin dans une main, quoi. À l'approche des élections européennes, par exemple, je pense que personne n'attend vraiment de nous qu'on explique comment ça fonctionne les élections européennes, parce que globalement les gens s'en fiche un peu. Mais on le fait quand même dans un petit coin de page, parce qu'on se dit que même s'il n'y a que deux personnes qui lisent, et puis qu'à ces deux personnes-là, ça a servi à quelque chose, c'est quand même déjà pas mal. Voilà, donc est-ce que c'est vraiment notre boulot? Je ne sais pas, mais on se laisse des petits passages comme ça, des petits endroits de temps en temps, où on glisse un truc en se disant si ça sert à quelqu'un, voilà. Mais on n'a pas la prétention d'instruire. Après, plaire... on peut à un moment donné lire un article qui séduit ou quelque chose comme ça, mais l'info, elle est pas là pour plaire. Elle est là pour, elle est là juste parce qu'elle est là, quoi. C'est-à-dire que quelque part, il se passe des événements. S'ils sont joyeux et sympathiques, c'est tant mieux, ça plaît. Mais si l'événement, il est pas joyeux et pas sympathique, c'est dommage. Mais il faut peut-être mieux le connaître quand même et en être informé quand même, parce que c'est ce qui fait, ce qui se passe autour de nous, c'est ce qui fait nos vies à tous. Donc au départ, plaire et instruire, oui, je pense que c'est pour résumer, c'est un peu l'ensemble des rapports humains, c'est-à-dire que si on plaît pas un minimum, si on instruit pas un minimum, bah probablement qu'on sera plus lu du tout, mais c'est pas notre ligne. Notre ligne à nous, c'est informer et donner une information la plus juste possible. En fonction de nos, comme vous disiez tout à l'heure, de nos référentiels, de nos possibilités, de nos potentiels, de nos voilà, de ce qu'on sait faire, et puis aux gens de l'apprendre comme ils veulent et d'en faire ce qu'ils veulent finalement.
Voilà, merci. Vous réaffirmez aussi ce qu'est un journaliste, puisque c'est quand même un métier qui à des contraintes, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas n'importe quoi, n'importe comment, on ne dit pas ce qu'on veut, et l'idée c'est d'être le plus proche de ce qui est. Donc merci de le redire, parce qu'il y a peut-être des fois des gens qui doutent un peu de la sincérité du travail des journalistes.
Ouais, je pense que malgré ce qu'on entend beaucoup, alors il y a des études rassurantes, hein. Il y a une étude Kantar il n'y a pas très longtemps qui dit que la PQR reste le média de confiance, la presse quotidienne régionale. On est content quand on entend ça. Après, on n'est pas super dupe non plus. Ça se joue sur des chiffres qui sont pas... c'est celui en qui les gens ont encore le plus confiance. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vraiment confiance. Mais malgré ce qu'on peut entendre, globalement, et malgré ce qu'on peut croire, globalement, les journalistes sont des gens honnêtes. C'est des gens qui sont pas là pour ni faire du fric. Si on voulait faire du fric, on ferait un autre métier. Ça se saurait. Hein. Il y a probablement 2-3 stars qui ont des vies de stars, mais hors ça, c'est plutôt un métier en voie de paupérisation. Là. Donc, si on voulait gagner de l'argent, on ferait autre chose. Moi, si je voulais gagner de l'argent, je ferais autre chose. On n'est pas là non plus pour se faire briller. Si on voulait se faire briller, on ferait autre chose aussi. En ce moment, on n'est pas tellement aimé, donc voilà. On est tout le temps entre le fer et l'enclume, parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a les gens qui voudraient qu'on parle d'eux de cette manière-là, et puis il y a les réalités qui font que le lecteur, lui, n'a pas forcément envie d'entendre tout le temps parler de telle ou telle politique, de tel ou tel associatif même, hein. Enfin voilà, des gens qui sont un petit peu comme ça... qui aimeraient bien qu'on parle d'eux, et on le comprend, parce que encore une fois, ils font plein de choses, ils sont très actifs, et c'est normal qu'ils aient ce ressenti-là, mais c'est pas nous, notre job de faire cette communication-là. C'est pas pareil, le journalisme et la communication.
Merci, c'est aussi de rappeler cette chose fondamentale. Et alors, Emmanuel Pavillon, il se trouve... C'est pour ça aussi qu'on a la chance de vous recevoir aujourd'hui à Radio Campus, que vous travaillez en ce moment sur un mémoire. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Oui, mais là, mais pour le coup, c'est secret. Sous une autre... Voilà. C'est pas la question, mais c'est sous une autre casquette que celle de responsable de journal. C'est sous une casquette totalement personnelle. Et oui, je travaille sur les jeunes et l'information, enfin les 15-24 ans et l'information. Sur en fait la cible, le public de Radio Campus en Touraine, pour essayer de voir comment ça fonctionne, comment les jeunes ont besoin d'infos et en reçoivent, ou n'en reçoivent pas d'ailleurs, et si ils s'informent davantage sur YouTube, via Radio Campus, sur WhatsApp ou sur Twitch ou ailleurs.
Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce travail de recherche ?
Tout un tas de choses. L'envie de faire un petit peu autre chose que mon quotidien, ça c'était une question très personnelle. Et encore une fois, ça n'a pas vraiment de rapport. L'envie quand même de rester sur ce sujet qui me passionne, de l'information de proximité. Si j'ai fait ce job-là, moi c'est pas du tout pour rien. Je pense qu'on a besoin de savoir ce qui se passe autour de nous pour vivre bien. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Et pour le coup, j'aimais l'idée de faire ce lien-là avec d'autres. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce job. Donc, on sait que les jeunes ne sont pas forcément dans l'info locale telle qu'elle est proposée. Donc, est-ce qu'ils sont dans l'info locale proposée autrement ? Est-ce que ils utilisent des alternatives pour s'informer ? Quelles sont-elles ? Tout ça m'intéressait. Puis j'ai un môme qui entre dans la tranche d'âge et j'avais envie de continuer à parler son langage aussi. C'est pour le coup là encore plus perso.
Et alors, comment dire, quels autres médias vous avez pu ou aller rencontrer sur cette classe d'âge?
Je ne vais pas forcément rencontrer essentiellement des médias, je vais plutôt rencontrer des gens dans la tranche d'âge. Donc Radio Campus m'intéressait pour ça parce qu'elle est dans la tranche d'âge. Enfin, sa cible et ses participants. Les médias, pour le coup, locaux, sont très intéressants, mais il y a aussi des médias hors local qui font des choses, enfin des médias locaux, mais hors Touraine, qui font des choses différentes. Et pour le coup, j'ai pris contact avec certains d'entre eux, mais ça, je vous le raconterai une autre fois.
Quand, prochain épisode, voilà. Quand vous aurez avancé dans votre,
dans tout ça, ouais.
Dans votre travail. Et alors, quelle application concrète, professionnelle, vous imaginez à ce travail?
Pour l'instant, c'est sans application envisagée. C'est, pour l'instant, c'est on prend du recul, je prends du recul et je me donne le temps de réfléchir à un sujet auquel on a. Les jeunes en PQR, c'est pas une cible. C'est-à-dire que on sait ou on imagine que, et on sait, au-delà d'imaginer, que c'est des gens qui n'achètent pas le journal, qui ne lisent pas le journal, ou de manière extrêmement anecdotique. Vous savez comme moi que la presse en ce moment va pas super bien, donc elle est obligée de se remettre en question énormément. Et il y a tellement de sujets sur lesquels elle est obligée de se remettre en question qu'il lui faut sérier. Et pour le coup, les jeunes peuvent pas être une priorité parce qu'il y a trop de choses à faire à date, à l'instant T, il y a trop de choses à faire. Donc pour le coup, là, on était vraiment sur un sujet qui, sur lequel, voilà, je savais que mon média n'aurait pas le temps de se pencher maintenant de manière longue. Ou en tout cas de manière fouillée, longue, c'est pas forcément le cas, mais fouillée. Et en même temps, je pense que c'est un petit peu quand les commerçants vous portez un jean quand vous avez 15 ans, vous pouvez vous souvenir du jean que vous avez porté quand vous en avez 50 ou 60, et si vous le retrouvez, vous êtes vachement content. Ben, quelque part, je pense qu'on se souvient tous du livre qu'on a lu quand on était petit, du premier film qu'on a vu et potentiellement de la première fois où on a ouvert un journal, regardé une émission d'information à la télé ou je sais pas trop quoi. Et je me dis que si on donne pas aux jeunes d'aujourd'hui ce moment-là où ils vont ouvrir un journal, écouter une émission de radio, écouter une émission de télé, faire je sais pas quoi. Excusez-moi. Eh bien, excusez-moi, c'était mon téléphone. Le risque, c'est finalement que quand ils seront plus vieux, bah, ils n'ont pas envie de s'informer ou que pire. Et là, c'est des choses un peu dramatiques, mais après tout, pourquoi pas? Que pire, on arrive un jour à une génération qui ne sait plus le faire du tout. Voilà. Moi, je rencontre pas mal de jeunes. Là, j'ai des gens qui me disent. Pas forcément vieux, hein, des gens qui vont avoir entre 16 et 20 ans, c'est pas forcément vieux, mais c'est pas forcément jeune non plus complètement. Enfin, c'est un âge où on commence à être bien en capacité de réfléchir et qui me disent que leur source d'information est le petit carré rouge de l'iPhone, parce que c'est l'information proposée en fait par le mobile, quoi, et que évidemment tout le monde aujourd'hui s'informe via son mobile. C'est pas super grave, mais c'est bien aussi si les gens vont un peu chercher autre chose que cette information là et même s'ils le font pas, c'est bien s'ils sont en capacité de le faire. Donc voilà.
Oui, et d'ailleurs nous à Radio Campus, ça nous intéresse d'autant plus ce travail que vous faites, par curiosité, parce qu'on travaille sur la même tranche d'âge, et aussi parce que clairement depuis 2 ans, on voit bien que les nouveaux adhérents qui arrivent, ce sont des gens qui sont dans cette catégorie-là. C'est eux qui viennent ici à la radio pour fabriquer de la radio, parce qu'ils s'intéressent vraiment à l'information. Ils viennent avec des préoccupations éditoriales, politiques. éthique, le développement durable, ces choses-là, et pas pour faire des émissions qui sont très bien aussi, c'est pas une critique, mais pas sur des émissions qui traitent de culture ou de loisirs ou de musique ou de sport. Ils viennent, cette catégorie d'âge-là, ils viennent avec ces préoccupations-là. Donc c'est, en effet, il y a quelque chose qui se joue là. Moi, pour le moment, je pense qu'on n'a peut-être pas assez de recul pour comprendre ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est certain qu'il y a peut-être pas tant de choses que ça qui s'adressent à ce public-là, mais ils ont envie, en tout cas, d'être acteurs. En tout cas, c'est...
Peut-être qu'aussi, d'une manière générale, plus largement, on a eu une période, là, tous, hein, pas seulement les jeunes, du tout info à portée de clic, c'est-à-dire que, ou à portée de doigt. C'est-à-dire que finalement, avec le web très large, gratuit, infini, on s'est tous retrouvés. Moi, j'ai trouvé... Je veux dire, c'est pas qu'une histoire de gens de 15 à 25 ans. On a tous trouvé ça extraordinaire. Tout à coup, c'était vraiment le monde qui s'offrait. Là, je pense que plus généralement, c'est cette dernière année, ça s'est devenu prégnant. Il y a une espèce de léger recul des gens disant attention. On a le monde à porter, mais c'est quoi ce monde? Il est fait par qui? Et est-ce qu'il veut nous dire quelque chose, ou est-ce qu'il est juste, ou est-ce que c'est vraiment juste le monde libre qu'on nous avait promis avec l'internet? Et il y a de plus en plus de doutes. On a les fake news, on a ce problème du deepfake qui fait qu'on est même plus sûr qu'on va être en capacité réellement d'identifier une vraie info d'une fausse info. Il hein, y a des rédactions qui sont montées là-dessus. Enfin, il y a des gens qui bossent là-dessus à longueur de temps. Et les gens, du coup, ont développé une espèce de méfiance générale sur attention, c'est pas on nous cache tout, on nous dit rien. Là, c'est plutôt on nous dit tout, mais on nous dit que ce qu'on a envie de nous dire et on nous dit des choses fausses. Je pense que là, on a une petite chance. C'est aussi pour ça que c'est le moment de se poser toutes ces questions-là. On a une petite chance de réorganiser une offre d'infos aux gens qui soit qui sortent un peu la tête de tout ça. Moi, les jeunes que j'ai rencontrés pour l'instant, j'en ai pas encore rencontré beaucoup, mais je l'entends, la dernière me le dire, c'était une fille, je l'entends me dire, nous, ce qu'on veut, c'est des trucs simples et clairs. Et là, bah, y en a partout, c'est pas simple, c'est pas clair, et c'est pas sûr, c'est pas fiable. Donc, comment nous, les gens qui faisons de l'info locale, vous à Radio Campus, moi à l'ANR ou ailleurs, enfin n'importe qui d'autre, comment on arrive à proposer un truc simple et clair et fiable?
Mais après, je sais pas. Comment vous considérez l'éducation aux médias? Parce que c'est un peu la tarte à la crème du moment, on en entend parler partout, et il y a des gens qui s'engouffrent là-dedans, donc de façon plus ou moins sincère et qualitative. Et donc je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'éducation aux médias?
L'éducation aux médias, je pense que c'est cyclique. Il y a eu une grosse période il y a quelques années. C'était l'époque où les journaux et la presse en général avaient plein d'argent. Une période révolue. Avaient plein d'argent et du coup, avaient les moyens de consacrer du temps au lycée, au collège, aux écoles, à tout le monde. Et là, il y a eu des gros crédits d'État organisés pour créer des structures en capacité de faire le lien entre l'école et la presse, quel que soit l'âge des écoliers. Il y a eu un gros moment de creux là où plus personne n'avait d'argent, ni au niveau des médias, ni au niveau de l'État. Et quand il n'y a pas d'argent, hélas, il n'y a plus de moyens. Et quand il n'y a plus de moyens, ben, on resserre. Et c'est toujours les choses un petit peu parallèles comme ça qui pâtissent les premières. Donc il y a eu, je pense, un gros creux de la vague en termes d'éducation aux médias. Et puis avec les fake news, avec justement tous les problèmes sur Internet, etc. Là, c'est en train de revenir en force, un petit peu comme un... voilà, alors... Le truc, c'est que il faut que ça soit un petit peu suivi, quoi. Il faut que... Moi, je pense que c'est super bien. Je pense que même... C'est l'histoire du jean de tout à l'heure. Hein. Même si après, la personne, elle a... elle rouvre pas un journal, elle réécoute pas une radio pendant 10 ans, si elle l'a fait une fois en aimant et en aimant vraiment et qu'on l'a aidé à ça, vous, nous, hein, je vous disais tout à l'heure que vous faisiez de l'éducation aux médias, voilà, c'est, ça peut faire partie du job à un moment de n'importe qui, probablement que dans 10 ans elle rouvrira un truc quel qu'il soit, hein, ce qu'on te rendra. Je veux dire, dans 10 ans, ça sera sûrement ni la radio ni les médias tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, on va tous réinventer nos formats et puis les publics nous obligeront à réinventer ces formats et avec un peu de chance, ils les utiliseront. Et s'il y a eu éducation aux médias, il y a une vraie chance qu'ils les réutilisent un jour.
Donc, il y a là, vous misez sur le, comment dire, sur le côté Madeleine de Proust.
Ouais, un peu, je pense que, mais c'est ça la culture, hein. Enfin, globalement, et l'information et la connaissance, c'est si on n'y a jamais goûté, c'est plus compliqué. Et si on y a goûté, mais que c'était pas bon, on n'y revient pas. Si on y a goûté, que c'était délicieux, même si on en est privé pendant 10 ans, à un moment donné, ça revient, quoi. On a envie d'y retourner. Donc, là, on se fait une petite comparaison qui est assez courante, hein, la nourriture et la nourriture physique et intellectuelle, mais c'est vrai, je pense. J'ai peut-être tort, mais je pense que c'est vrai.
Non, je pense que un neurologue pourrait nous confirmer, oui. qu'il se passe des choses au niveau
de
du
la
cerveau,
même, voilà, de la même teneur, du même.
Voilà. Et pour terminer, j'ajoute que c'est vrai qu'on a quand même parmi les fameux lycéens qui viennent faire des émissions de leur propre chef à campus. C'est des jeunes gens qu'on a eu en atelier radio au collège.
Oui, voilà.
En fait, ça marche, ouais, c'est exactement ce que vous dites. Que, du coup, ça a laissé une empreinte intéressante et ils viennent parce que...
Et après, au fond, je veux dire, ça prêche pas ni pour ma paroisse ni pour la vôtre, mais quelle que soit la manière dont les gens s'informent, je veux dire, que ça soit en utilisant un journal, que ça soit... Finalement, on s'en fiche un peu. L'important, c'est qu'ils s'informent et qu'ils laissent pas les autres décider de leur sort sans savoir de quoi ils retournent eux-mêmes et sans prendre des décisions, ou en tout cas celles qu'ils peuvent prendre eux-mêmes. Donc, c'est ça le but. Hein. C'est que les gens s'informent, soient un peu plus libres grâce à ça.
Voilà, est-ce que c'est pas ça, en fait, le métier de journaliste, de dire je travaille pour que les autres puissent choisir?
Ouais, bah ça serait, c'est une jolie définition, en tout cas.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Pavillon, de nous avoir accordé un peu de temps. Beaucoup.
Au revoir, merci.
C'était La Méridienne sur Radio Campus Tours. Bonne journée à tous, à l'écoute de notre radio. Cette émission sera rediffusée ce soir à minuit et en podcast sur notre site radiocampustours.com dès cet après-midi.